Il était une fois, trois filles en colère qui avaient décidé de s'engager pour la société. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Vincent, j'ai décidé de les engager. Je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur Fréquence 7, la radio toujours décalée, différente et pas pareille. Et vous écoutez encore, mais pour la dernière fois de la saison, l'émission Drôle de Dame. Alors, le mois dernier, on avait discuté autour de la question de la vérité et de la politique en interrogeant la dangerosité du primat de l'émotion sur la réflexion, hein, en particulier, qui est un symptôme de ce qu'on appelle l'ère de la post-vérité ou l'ère post-factuelle, ça revient au même, qui sont des néologismes apparus aux États-Unis en 2004, comme tu l'avais rappelé, Daniel. Et donc, du coup, ces expressions, elles rendent vraisemblable l'idée d'un changement de paradigme dans la vie politique au début du XXIe siècle. L'idée et l'objectif étant d'orienter les débats vers l'émotion, en usant d'éléments de langage et en ignorant les faits, ce qui pose problème quand même. Et donc, du coup, notre discussion, après avoir rappelé ce qu'on pouvait entendre par la vérité, en s'appuyant sur quelques philosophes, elle a rendu nécessaire l'interrogation du rôle des médias là-dedans. Et on avait mis l'accent sur la concentration des médias. Alors, pour rappel, en France, 9 milliardaires contrôlent désormais plus de 80% des titres de presse, et 11 d'entre eux cumulent 57%, c'est énorme, de l'audience télévisuelle. Et on avait donc vu l'impact sur l'information, ce que justement, elle oriente les infos, façonne évidemment les opinions, pour par exemple, comme Muriel l'avait rappelé, invisibiliser les minorités. Alors aujourd'hui, on voudrait revenir justement sur cette question de l'industrie médiatique, en quelque sorte, hein, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un essai dont le titre français est en gros « La fabrique du consentement », un texte coécrit par Edouard Herrmann et Noam Chomsky pour interroger aujourd'hui la place des médias dits alternatifs. Comment ces médias alternatifs peuvent résister face à cette concentration médiatique et surtout en quoi ils peuvent en quelque sorte sauver la réflexion en donnant à penser, débattre, à réfléchir et donc en promouvant enfin la liberté d'expression et en quoi ils sont évidemment nécessaires dans une démocratie. Alors voilà, Daniel, tu veux bien introduire cet essai hein, qui est co-rédigé par les deux auteurs américains là, que je viens d'évoquer, Edouard Herrmann et Noam Chomsky, ouais. Avec un petit mot sur les auteurs.
Alors, Edouard Herrmann, il est né en 1925 et décédé en 2017. C'était un économiste et un observateur des médias spécialisé dans les rapports entre les grands groupes de presse et les questions politico-économiques. Noam Chomsky, il est né en 1928, il est toujours vivant, on l'entend encore, et c'est un linguiste. Il se fait connaître du grand public à la fois dans son pays et à l'étranger par son parcours d'intellectuel engagé de tendance socialiste libertaire et anarchiste. Alors l'essai s'intitule plus justement en français, il est paru en 1988, il s'intitule « Fabriquer un consentement, la gestion politique des médias de masse ». Le titre est un emprunt direct à l'expression utilisée par Walter Lippmann dans « Opinion publique » où il utilisait l'expression de « fabrication du consentement ».
D'accord. Alors, les auteurs proposent un modèle de propagande qui est une grille d'analyse des médias de masse américains. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit mot aussi là-dessus ?
Oui, alors ils découvrent un modèle de propagande. Selon eux, les médias constituent un système qui sert à communiquer des messages et des symboles à la population. Ces médias sont les instruments d'une vaste communication idéologique visant notamment à promouvoir le libéralisme économique et à légitimer les politiques économiques et étrangères des États-Unis. Ce modèle, disent-ils, permet de reconstituer par quel processus le pouvoir et l'argent sélectionnent les informations. Il met aussi en lumière la tendance des médias de masse à n'avoir aucune considération dans le traitement qu'ils font de l'information pour toutes les victimes d'exactions. L'essai contient une suite d'études de cas portant notamment, par exemple, il y en a d'autres, sur la couverture médiatique de la guerre du Vietnam, puis des premières élections démocratiques en Amérique latine dans les années 80. En résumé, dans la fabrication du consentement, Chomsky et Herman avancent l'idée que les médias diffusent avant tout une propagande au bénéfice d'un groupe de dominants. Loin de constituer un quatrième pouvoir en démocratie, la principale fonction des médias est, selon eux, de traiter et de manipuler l'information afin de servir les intérêts des élites politiques et économiques. De plus, ces mêmes élites possèdent et contrôlent, comme on vient de l'expliquer, Florence, soit directement, ils les contrôlent, soit directement à travers les financements, possession du capital des entreprises de presse, mais aussi subventions d'État, soit indirectement, à travers les sources d'informations reconnues par eux-mêmes comme seules officielles et crédibles, le tout constituant ce qu'on appelle le parti médiatique.
Eh oui. Et donc, dans ce texte, les auteurs parlent de l'exercice de ce modèle de propagande à travers des filtres. De quoi s'agit-il ?
Alors, ce modèle de propagande, selon eux, s'exerce à travers 5 filtres pour comprendre les biais éditoriaux. Ces filtres sont mis en place par les médias de masse eux-mêmes. C'est à travers eux qu'ils déforment les informations communiquées à la population de manière à fabriquer son consentement. Nous allons voir que ce modèle de propagande est particulièrement présent dans les médias de masse français actuels. Nous sommes aujourd'hui dans la fabrication du consentement de la population par les dominants pour justifier la destruction des services publics, la paupérisation générale, etc. Seuls les riches, à l'heure actuelle, s'enrichissent de manière scandaleuse. C'est le retour de la véritable idéologie de droite et d'extrême droite, plutôt Hitler que le Front populaire. Nous sommes très éloignés dans ce modèle de propagande de la mission fondamentale du journalisme que nous décrivions le mois dernier, vérification des sources, recoupement des informations, impartialité, transparence et éthique professionnelle. Tout ça n'existe pas dans ce modèle, évidemment. Donc, ce modèle de propagande présente 5 filtres. 1. La taille, l'actionnariat et la recherche du profit. Les médias de masse qui dominent le marché de l'information sont de grandes entreprises à but lucratif qui servent par conséquent les intérêts de leurs propriétaires, eux-mêmes grandes entreprises ou fonds d'investissement. Donc seront pénalisés les médias dont les lignes éditoriales ne coïncident pas avec l'idéologie dominante parmi les potentiels actionnaires. Deuxième point, la régulation par la publicité. Puisque la majorité des revenus des médias provient de la publicité et non pas des ventes ou abonnements, ils ne sont pas économiquement viables sans le soutien des annonceurs. Et les annonceurs agissent par conséquent, et de fait, comme une autorité de régulation permettant à tel ou tel média d'opérer ou non. Ainsi, les médias se doivent-ils de tenir compte des vues économiques et politiques des annonceurs qui les financent. Donc sont pénalisés les médias dont les audiences ne sont pas rentables du point de vue des annonceurs.
Du coup, ça repose la question de l'indépendance, quoi.
Totalement, totalement. Point 3, alors, du modèle, les sources d'information. Donc, les grandes entreprises et les agences gouvernementales subventionnent les principaux médias et produisent eux-mêmes, de manière routinière, de l'information au travers de déclarations, communiqués de presse, conférences de presse, etc. Donc, sont pénalisées les sources d'information qui ne sont pas considérées comme habituelles ou propres à suivre le rythme de travail des médias de masse. Quatrième point, ce qu'on appelle les contrefeux, ce qu'ils appellent les contrefeux. Les contrefeux, ce sont les moyens de pression, c'est des réactions très négatives au contenu éditorial produit par un média. Ces contrefeux peuvent prendre forme de déclarations ou de poursuites judiciaires. Plus la personne ou l'institution qui organise le contrefeu est puissante, et plus le contrefeu peut être coûteux et dévastateur pour le média ciblé. Donc évidemment, sont pénalisés les opinions qui seraient de nature à nuire aux intérêts de personnes ou d'institutions puissantes. Au cinquième point, alors en 88, quand le livre est sorti, il parlait en cinquième point de l'anticommunisme, et qui est introduit dans cette édition originale. Ça consistait en la pression subie par les médias pour ne pas exprimer d'opinions qui puissent être de près ou de loin considéré comme favorable au communisme. La pression provenait tant des agences gouvernementales que des grandes entreprises et conduisait les médias, sinon à promouvoir, au moins à ne pas questionner le libéralisme économique et la politique étrangère des États-Unis dans le contexte de la guerre froide.
Donc du coup, on retrouve bien l'idée de l'orientation, en fait, hein, de l'information. Quoi.
Absolument. Selon Chomsky, d'ailleurs, la guerre contre le terrorisme a depuis remplacé l'anticommunisme comme principal mécanisme de contrôle social. Aujourd'hui, on pourrait dire que l'antisémitisme est utilisé de la même façon en Europe et aux USA.
Bien. Ben, merci beaucoup, Daniel, pour toutes ces explications. Et donc, du coup, tout ça va justifier la nécessité, effectivement, hein, de faire connaître l'existence de médias alternatifs. Que tu juges d'ailleurs comme étant du vrai journalisme, hein, tu parles en ces termes, car précisément ça s'oppose à la propagande. Tu peux en citer rapidement quelques-uns avant de donner la parole à Vincent.
Oui, tout à fait, quelques-uns. Donc on trouve quand même un véritable journalisme éloigné de ce modèle. On peut citer dans les médias indépendants qu'on trouve sur Internet Blast, le souffle de l'info, Le Média, Off Investigation, Frustration Magazine, Reporter, Histoire Crépue, Basta, Au Poste, Mediapart et bien d'autres. Il y en a beaucoup. Street Press, enfin bon, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vraiment des très bons, très bons, très bons journalistes. Donc ces médias indépendants ont de très bons journalistes. Ils vivent grâce au soutien financier de leurs lecteurs ou de leurs abonnés. Certains, en effet, sont payants, comme Off Investigation ou Mediapart. Les autres sont accessibles gratuitement. Et puis, il y a aussi de nombreux journalistes influenceurs indépendants qui s'expriment également sur les réseaux que Jean-Luc Mélenchon rencontre dans la conférence de presse qu'il fait tous les mois avec les journalistes indépendants. Hein, c'est le premier homme politique qui organise des conférences régulièrement avec des médias indépendants.
Très bien, merci. Alors justement, Vincent, je crois que tu voulais nous évoquer quelques mots aussi sur les médias alternatifs ou les nouveaux médias. Et donc du coup, hein, tu vas te demander que, finalement comment ils peuvent résister justement face à cette industrie médiatique dont vient parler Daniel.
Tout à fait. Donc comme l'a dit Daniel un peu auparavant, donc on peut citer dans ces nouveaux médias Blast, Le Média, Street Press et tant d'autres. Et sur le papier, ils ont tout pour plaire. Ils sont indépendants, financés par leurs lecteurs, sans pub et surtout sans milliardaires au-dessus de la tête pour dicter la ligne. Mais si on regarde les chiffres et l'influence réelle, une question se pose. Ont-ils vraiment réussi à se faire une place? Ou ne font-ils que prêcher des convertis? Alors le premier obstacle, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la masse critique. Quand un JT de TF1 ou de France 2 réunit 5 à 6 millions de personnes tous les soirs, un gros coup d'éclat de blast sur YouTube va toucher 500 000 personnes, peut-être 1 million de personnes. C'est énorme pour le web, mais c'est encore dérisoire à l'échelle du pays. La réalité, c'est que ces médias alternatifs peinent à sortir de ce qu'on appelle la bulle de filtrage. Ils parlent à une gauche déjà militante, déjà convaincue, déjà en colère. Le défi, c'est de toucher l'ouvrier, l'étudiant ou le retraité qui ne sont pas déjà abonnés à leur réseau. Pour l'instant, le média traditionnel reste le média de masse, tandis que le média alternatif reste le média du clic engagé.
Donc visiblement, ils sont confrontés à une question de l'audience, et l'autre difficulté est d'ordre financier.
C'est ça. Ensuite, il y a le nerf de la guerre, l'argent. Le système français est fait pour protéger les gros, les aider à la presse. Elles sont majoritairement à LVMH, Dassault ou Drahi, les fréquences TNT. Elles sont réservées aux groupes historiques. Un média comme Le Média doit se battre chaque mois pour payer ses salariés, alors qu'en face, une chaîne telle que CNews peut perdre des millions d'euros pendant des années parce qu'elle est portée par la fortune colossale de son propriétaire. C'est un match de boxe où l'un a des gants en mousse et l'autre un punching ball en or. Difficile dans ces conditions de s'imposer sur le long terme sans finir par s'épuiser.
J'aime beaucoup ton image hein, du match de boxe avec les gants de mousse, etc. Et donc, du coup, s'ils rencontrent des obstacles, ces médias, comme tu viens de le mentionner, bah, finalement, comment peuvent-ils se faire une place?
Et bien, pourtant, dire qu'ils n'ont pas de place serait une erreur. Leur force n'est pas dans la quantité, mais dans l'agenda. C'est ce qu'on appelle l'effet poil à gratter. Si Street Press ne sortait pas ses enquêtes sur l'extrême droite, si Blast ne suivait pas de près les dérives de la finance, de la finance, les médias traditionnels passeraient sans doute beaucoup plus de choses sous silence. Les médias alternatifs forcent les grands à travailler. Ils sont le remords des rédactions de 20 heures. Ils ne remplacent pas la télé, mais ils l'empêchent de dormir tranquillement. Alors qu'est-ce qu'ils font leur place ? Pas encore totalement. Ils sont dans une situation paradoxale. Ils sont devenus indispensables pour une partie de la population, mais ils restent invisibles pour l'autre moitié. Le risque pour eux, c'est de devenir des médias de niche, confortables dans leur posture de résistance, mais incapables de parler à la France qui ne leur ressemble pas. La vraie victoire de David contre Goliath, ce ne serait pas de faire plus de vues sur YouTube, ce serait le jour où un sujet lancé par l'un de ces médias deviendra le débat principal à la machine à café, d'une usine ou d'un bureau de province. Et là, le chemin est encore bien trop long.
Merci beaucoup Vincent, à nous en tant que citoyens aussi, de donner un coup de main à ces médias alternatifs.
Oui, alors, parce qu'une fois qu'on suit certains de ces médias, qu'on a choisi ceux qu'on préfère, il y a vraiment énormément de travail qui est réalisé. Ce sont des journalistes absolument incroyables, formidables.
Ah ben tout à fait, c'est-à-dire ouais. qu'ils organisent ce qu'on va appeler le débat, donc qui va permettre effectivement la liberté d'expression, enfin qui est même au cœur de la liberté d'expression, et qui nous oblige justement à se construire son propre jugement, et ensuite effectivement à devenir pleinement un citoyen, quoi, en se disant qu'est-ce que avec quoi je suis d'accord, avec quoi je suis pas d'accord, et donc de me forger justement un avis. Alors du coup, c'est le moment de partir aux États-Unis, Muriel.
Bonjour.
Alors, je crois que tu veux nous expliquer justement que en matière des médias indépendants aux États-Unis, plutôt de gauche, voire bien à gauche pour certains, voire socialiste ou marxiste, dis-tu, nous avons l'embarras du choix. Il existe d'ailleurs une association des médias alternatifs fondée en 1978. Mais d'abord, pour pouvoir comprendre pourquoi ces médias progressistes sont importants, il faut d'abord comprendre le clivage entre les partis américains, ce que tu vas nous expliquer d'abord, hein, ainsi que, en quelque sorte, leur évolution d'un point de vue historique.
Oui, c'est important de comprendre ce clivage. Alors, on va commencer avec le Parti démocrate, qui est un des deux partis majeurs aux États-Unis. Hein. Il fonctionne sur deux partis principalement, avec les indépendants, qui sont de plus en plus connus. Il est, depuis les années 30, plutôt centriste, centre-gauche, et d'autant plus depuis les années 60. Les deux partis américains ont évolué profondément au fil du temps, au point d'inverser plusieurs positions historiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Républicains ont été fondés en 1854. Initialement, c'était un parti progressiste, donc sous Lincoln, favorable à l'abolition de l'esclavage et un État fédéral fort, alors que les démocrates, eux, ont fondé en 1828, donc avant, était défenseur d'une société agraire, méfiant envers le gouvernement fédéral et majoritairement pro-esclave dans le Sud avant la guerre de sécession. C'est à ce moment-là où, en fait, les deux partis ont inversé leur point de vue. Donc, après la guerre de sécession, en 1865 jusqu'à 1930, donc cette période historique, les républicains défendent donc les droits civiques des anciens esclaves, amendement de la Reconstruction par exemple, et soutiennent l'industrialisation, les chemins de fer, les universités publiques. Alors que les démocrates dominent le Sud, donc ce qu'ils appellent le Solid South, et s'opposent aux politiques de Reconstruction, et ils restent aussi attachés à un gouvernement fédéral limité.
Et les années 30, jusqu'aux années 80 d'ailleurs, avec le tournant de New Deal, va provoquer quelque chose de fondamental.
Oui, ben on a Roosevelt qui rentre en jeu, et la Grande Dépression provoque ce réalignement majeur, où ils deviennent un parti du libéralisme social, et avec des programmes sociaux, régulation économique, soutien aux syndicats. Ils attirent les ouvriers, les minorités urbaines et les classes populaires et se positionnent durablement comme centre-gauche. Alors que les républicains, ils se rapprochent des milieux d'affaires et ils défendent un État plus limité et des politiques économiques plus conservatrices. D'ailleurs, je voulais juste vous rappeler que nous, quand on parle de libéraux, on va parler sur un point de vue économique, Alors que quand on parle de libéraux aux États-Unis, c'est sur un point de vue social.
D'accord. Et donc des années 60 aux années 80, qui vont être évidemment marquées en particulier par la loi sur les droits civils, dont tu vas parler d'ailleurs dans un instant, hein, qui est votée par le Congrès et qui sera promulguée par le président du moment le 2 juillet 1964, il va paradoxalement se produire, à côté donc de ce signe de progrès social, on ne peut pas l'ignorer, un conservatisme moderne.
Oui, effectivement. Donc nous avons chez les démocrates un soutien des lois sur les droits civiques 1964-65. The Civil Rights Act de 64 va interdire la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale. Alors que les républicains, eux, ils vont prendre la stratégie du Sud, ce qu'ils appellent « the Southern Strategy », qui attire les électeurs blancs du Sud opposés aux réformes raciales. Donc sous Reagan, des années 80, vous vous rappelez, devient le parti du conservatisme moderne, ce qui veut dire baisse d'impôts, dérégulation, anticommunisme, on en a parlé, et les valeurs sociales conservatrices.
Et donc, des années 1990 à 2015, avant l'ère Trump, à la veille de l'ère Trump, en quelque sorte, qui y a-t-il ?
Alors, d'un point de vue de l'économie, les démocrates, parce que la fracture, elle est quand même stable. C'est pas avant Trump, c'est assez stable à ce niveau-là. Les démocrates, État régulateur, ils veulent des programmes sociaux, la fiscalité progressive, alors que les républicains, ils restent sur le marché libre, la réduction des impôts, la limitation du rôle de l'État, toujours. Leur vision respective de la société, on va voir les démocrates qui vont avoir les droits des minorités, les droits LGBTQ+, et une immigration plus ouverte. Alors que les républicains, toujours dans le conservatisme social, les restrictions migratoires, défense des valeurs traditionnelles. Sur la politique étrangère, on va avoir du multilatéralisme et une alliance internationale chez les démocrates, alors que les républicains, ils vont s'approcher plus de l'unilatéral et les dépenses militaires élevées. En ce qui concerne l'électorat, les démocrates, eux, on va les voir dans les villes, chez les minorités, chez les jeunes, chez les diplômés, alors que les républicains, ils vont rester dans les zones rurales, les électeurs blancs, plus âgés, classe moyenne, conservatrice.
Et puis arrivent les élections de 2016.
Eh oui. Après 8 ans avec le premier président noir démocrate, les républicains s'opposent de façon virulente à l'idée de voir Hillary Clinton, une figure politique présente depuis 1992 avec l'élection de Bill Clinton, qui est devenue ensuite sénatrice de l'État de New York, puis secrétaire de l'État sous Barack Obama, eh bien, ils n'en veulent pas. En 2016, Hillary Clinton fait face à un adversaire de taille pour la nomination démocrate, donc Bernie Sanders. Pour la première fois, le candidat se dit ouvertement socialiste, et à la surprise de 2 grands partis américains, une majorité des jeunes se sent écoutée par ce sénateur. Il est pro-peuple, terre-à-terre, à l'écoute. Il parcourt le pays sans accepter un centime des grands pactes, donc les comités d'action politique. Et cela plaît aux jeunes. Mais la machine du Parti démocrate, le DNC, lui met son argent sur Hillary Clinton. Donc les tensions se multiplient, les clivages s'intensifient. Et c'est à l'issue de cette division profonde, politique mais aussi morale, que les médias indépendants sont de plus en plus sollicités par les Américains, qu'ils soient démocrates ou d'ailleurs de droite chez les républicains. Le contexte ouvre la porte à l'arrivée de Donald Trump en 2016, rejet des médias traditionnels, slogan des fake news et le mépris de l'autre.
Merci beaucoup Muriel pour ce rappel hein, des clivages entre les partis américains et donc du coup ça va justifier effectivement l'arrivée et la nécessité en fait de ces médias alternatifs qui peuvent ou qui vont tenter de propager une autre voie que celle du mépris de l'autre, voire plutôt même du rejet de l'autre. Et donc du coup est-ce que tu peux rapidement nous parler de quelques-uns d'entre eux? quelles sont leurs lignes éditoriales, hein, c'est-à-dire leur identité, leur philosophie, ouais. En quelque sorte.
Il y en a que quatre, en fait. Il y en a plein, mais j'en ai pris que quatre. Donc, il y a Democracy Now, Midas Touch, vous avez le Guardian, que tout le monde connaît, hein, parce qu'il est assez, assez grand comme journal, et ProPublica. Alors, pour la plupart, on a des organisations indépendantes, sans financement publicitaire à part... The Guardian, ni financement d'entreprise. Alors, la philosophie, elle va être d'un journalisme d'investigation centré sur les mouvements sociaux, les droits humains ou les voix marginalisées. Et ces grands médias indépendants se basent pratiquement tous là-dessus.
D'accord. Donc, finalement, ça ressemble précisément à nos médias alternatifs français, hein, c'est-à-dire ce souci, au fond, d'orienter aussi leur ligne politique et sociale, justement, en tenant compte de toutes les voix pour, oui. Justement, les considérer.
Après, ce qu'il faut dire juste rapidement, comme disait Vincent, c'est qu'en fait, ils prêchent déjà à des personnes qui pensent comme eux. Donc effectivement, c'est pas évident de parler aux autres.
D'accord, donc on retrouve un petit peu la même difficulté sur la question de savoir comment en fait on peut faire en sorte à ce que les discussions qui concernent la réalité quotidienne de tous puissent être propagées jusqu'à la machine à café, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Vincent. Eh bien écoutez, les amis, je crois qu'on arrive au terme de cette émission. Et au terme d'ailleurs de l'émission pour cette saison. Alors du coup, écoutez, on vous souhaite le meilleur pour vous tous, en espérant d'ailleurs que tout le monde va pouvoir prendre des vacances pour un repos bien, bien, bien mérité. Et on reviendra évidemment l'année prochaine.
À la rentrée, tu veux dire?
Ah oui, je voulais dire l'année prochaine. Ouais, ouais, évidemment, ouais. À la rentrée scolaire, ouais.
On sent les enseignants, là.
avec l'ambition de démontrer que, bah, qu'une autre société est possible. Et j'en profite au nom de nous tous pour remercier toute l'équipe de Fréquence 7, toujours bienveillante, et qui, grâce à sa motivation et son engagement, permet justement la réalisation de toutes ces émotions, en attendant de ces émissions, pardon.
Merci Sylvain. Ouais.
Merci bien.
Merci à toi. Et un bel été à tout le monde, et on vous laisse en musique.
Bonnes vacances.
Bonnes vacances.
Bonnes vacances.
Showtime, chaque jour faut plat une claque. S'ils ont rien d'important sous la dent, une goutte de sang, ils en font une flaque. Comment font-ils pour une bonne traque, faut de la croche. Un bon scoop afin que l'auditeur s'approche. Ouais, le fond, s'en faut au fond, faut vendre l'info. C'est clair qu'faut faire mouiller le lecteur plus vite qu'une info devant le cigare de Bill. Le pire, c'est qu'on répète ce que répète le mec à William. Que peut-être qu'il lui a mis au fond, enfin. Bon, passons, parce que de toute façon, maintenant l'info, ils te la font tous façon fashion. Ouais, façon carry time, façon action. Ça parle de gang, bien de trafic. Dès qu'en truc à jeune, y'a une embrouille, t'as craqué le vice, fils. Ouais, pour que leur bise glisse, pour que leur papy se vende, on nous diabolise tous. Entretenant les phobies et allant jusqu'à foutre des fausses barbes à des mecs de Tessie, j'trouve ça navrant. Ouais, quand les médias se font le relais du pouvoir, alors que leur rôle c'est qu'on puisse tout voir, j'doute de tout. Pour pas qu'on foute le feu, ils foutent le flou, craignant de réveiller une foule de fous. Quand les médias se font le relais du pouvoir. Alors que leur rôle c'est qu'on puisse tout voir, tout, tout, tout. Voilà. Quand les médias sont le relais du pouvoir. Voilà. Alors que leur rôle c'est qu'on puisse tout voir, tout, tout. J'ai vu comment sur deux phrases on pouvait me faire dire en fait ce que j'avais pas dit, et ça perdure. J'ai pas dit que ça me perturbe, non, je suis au-dessus de ça. Et puis je sais que ça fait aussi partie de notre succès. Je parais pas dans le game, mais j'en connais les règles mieux qui compte. Pour faire la une, on sait tous qu'il n'y a pas que le talent qui compte. C'est clair qu'il y a le buzz, le pis et le reste. Ça y est, t'as pigé le test, ça j'ai plus de musique aujourd'hui, mais bien de maîtriser le geste juste. C'est vrai que ça suce pas mal quand tu lis les chroniques de Scud de rap français, t'as mal. Quand tu dictes pour un Scud, ils peuvent mentir autant. Alors imagine quand il s'agit de l'OTAN, comment ils peuvent nous la mettre. Donc,
soir, nous ouvrons ce journal avec un chiffre encore en hausse, celui de la délinquance, plus 17%, un chiffre alarmant qui illustre bien le sentiment d'insécurité qui touche les Français.
6 mois de propagande et le tour est joué, on braque les feux sur la banlieue, le plan pouvait pas échouer. Ils font ce qu'ils veulent, nous donnent ce qu'ils veulent, bien nous donner, nous informent même de trucs dont ils n'ont pas toutes les données. Ils préfèrent se cacher derrière l'œil ton, dans le but de foutre le frisson aux Français à 20h, en montrant le feuilleton, ces bâtards collaborent, en nous tenant pour les principaux responsables de l'échec, alors que tout déjà déconne à bord. Quand les médias se font le relais du pouvoir, alors que leur rôle c'est qu'on puisse tout voir, je doute de tout, ou pas qu'on foute le feu, ils foutent le flou, craignant de réveiller une foule de fous. Quand les médias se font le relais du pouvoir, alors que leur rôle c'est qu'on puisse tout voir, je doute de tout. Quand les médias se font le relais du pouvoir, alors que leur rôle c'est qu'on puisse tout voir, tout, tout, tout.
Pas de lumière, gros, tu te la foutes bien en bas du loup, c'est là.
Je t'attends.
Va mourir.
Ouais, gros.
Ouais, t'as dit t'as vu le journal ce matin, tu te la foutes bien.
Non, même pas.
Ah, c'est des mensonges, hein, là-bas dedans. Hein.
Ah, on s'en bat.
Je crois pas en ce torchon de merde. Je crois au craquant, moi, le spin. Freak. L'argent. L'oseille, le craquant.